MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Ça passe très très vite et aujourd'hui, on parle de deux attitudes différentes face à son péché. On a péché et on est repris. De quelle façon est-ce qu'on se comporte? À quel point on a le cœur qui s'endurcit, le cœur qui reste ouvert? Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on décide de changer d'attitude? Est-ce qu'on accepte les conséquences qui vont avec? C'est tout un tas de questions qu'on va voir et on va voir donc ces deux attitudes possibles. Et je suis avec Frank et Nadine pour cette émission. Hello à tous
hello
les deux.
Nadine, hello Frank. Bon
salut
vendredi.
Frank.
Salut les filles.
Salut. On ne te dérange pas?
J'arrive au bout de ma recherche, là.
D'accord. Tu veux qu'on te laisse encore quelques minutes? On commence sans toi ou...
C'est un mot en hébreu assez simple, ce que je suis en train de faire. Est-ce que toi, tu as un mot en hébreu, Nadine?
Non, juste en français, malheureusement.
On peut préparer pour nous, notre grand auditoire.
On s'attend à de grandes révélations dans cette émission.
Là, on s'attend à des
franchement,
choses.
Franchement, on te laisse toute la place dans cette émission, Frank.
28 minutes 30.
Le mot shabar.
Shabar, c'est vraiment ça?
Shabar.
Ça veut dire quoi?
Ben, j'ai pas fini ma recherche, donc tout à l'heure, je vous dirai un peu
pendant la pensée,
ça ressemble à quoi.
Pendant la pensée de Nadine, tu vas préparer ton émission, c'est ça?
Ouais, complété, on va dire.
D'accord.
Plus. Nadine a plusieurs mots hébreux qu'elle m'a dit dans sa pensée.
C'est son genre en plus. Elle n'arrête pas avec les mots hébreux, grecs, grec. Je sais pas pour qui elle se prend. Hein.
C'est clair.
Faire comme Franck, apparemment.
Elle se compare.
Je me compare.
Ma Zoé.
Tout ce que tu connais.
T'avais du grec là-dedans, c'était même pas tout hébreu.
Aïe, aïe.
Ok, on est prêt pour l'émission, hein,
bon,
ouais, je suis prêt.
Ok,
là.
Allez, c'est parti, ouais. On va avoir deux attitudes face à son péché. Comment réagir avec Nadine?
On va voir avec vous ensemble dans Luc 18, les versets 10 à 14, alors que je préparais cette émission, c'est vraiment l'histoire qui est montée rapidement dans mon cœur parce que je crois que ça illustre vraiment le propos de ce qu'on va parler aujourd'hui. La Bible dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. » Donc, le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, il se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Et donc aujourd'hui, on parle de l'importance de notre attitude lorsqu'on a péché. Et ce texte ici nous montre la différence entre le publicain, le collecteur d'impôts, et puis le pharisien. L'un qui se justifie et l'autre qui tout de suite reconnaît que déjà, je suis un pécheur en fait. Seigneur, aie pitié de moi en fait, j'ai besoin de ta grâce. Et lorsqu'on pêche, justement, lorsqu'on a commis une erreur, peut-être un péché, voilà, vous avez volé, vous avez menti, vous pouvez vous dire, vous justifiez. Je l'ai fait parce que. Et c'est ça, en fait. C'est ça, l'attitude. Est-ce que tu vas tout de suite dire, si tu m'avais pas poussé, j'ai réagi par la colère. J'ai eu un excès de colère. J'ai eu, une mauvaise attitude, une mauvaise parole, même une mauvaise action. Est-ce que tout de suite tu te dis, mais c'est parce que tu m'avais poussé. Tu m'avais pas poussé hors de moi, je ne l'aurais pas fait. C'est parce que j'ai manqué. C'est pour ça que j'ai pris. Si je n'avais pas manqué, je l'aurais pas fait. C'est peut-être parce que j'étais au pied du mur. C'est pour ça que j'ai menti. Sinon, on allait, j'allais avoir des conséquences et tout ça. Quelle est ton attitude face à ton péché? Est-ce que c'est te dire, Seigneur, je me suis retrouvé dans cette situation qui ne t'honore pas. Aide-moi pour que je puisse m'en sortir. Si c'est une façon chronique que j'ai de réagir devant les gens, c'est peut-être une addiction que j'ai. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Est-ce que c'est ça ton attitude? Ou bien c'est plutôt de dire, trouver la faute chez les autres, trouver la faute autour de toi qui t'amène à cela. Et des fois, lorsqu'on est en relation comme ça avec des gens, c'est peut-être un ami, ça peut être un membre de famille, une personne en tout cas qui est dans notre entourage, qui est proche. C'est frustrant lorsque on met à la lumière quelque chose et la personne, elle se défend. Elle est sur la défensive, elle se justifie, et habituellement la solution ne se trouve pas. Et vraiment, lorsqu'on reconnaît, la Bible dit celui qui avoue sa faute obtient miséricorde. Lorsqu'on se met à reconnaître où on en est, même nous-mêmes face à nous-mêmes, on a une vue juste de où on en est, en fait. Si, par exemple, tu es là et t'es menteur, et tu peux commencer, tu peux t'en sortir, mais à un moment donné, tu dois te dire, ah, tiens, j'arrive, je suis à un point dans ma vie où j'ai du mal à assumer, les choses et à dire la vérité, à dire non, je n'étais pas disponible, c'est pas parce que j'étais malade, c'est pas parce que j'étais en voyage, je ne voulais pas. Et j'ai du mal à assumer, en fait, où j'en suis. Et ça te donne comme un regard réel, en fait. Et je veux vous inviter, alors qu'on avance dans notre vie chrétienne, et je crois que toutes les émissions qu'on fait ici à EMCI, c'est pour nous encourager, justement, à grandir dans notre foi, à être des vrais disciples de Jésus, mais il y a des choses que seul toi tu connais. Le publicain se frappait en lui-même. On ne sait pas c'est quoi son péché. Est-ce que c'était juste parce qu'il était collecteur d'impôts? Est-ce que c'est parce que quelque chose qu'il avait fait le matin même? Peu importe. Il se frappait la poitrine. Et sa prière, c'était Seigneur, aie miséricorde. Et l'autre, il se frappait, il chantait ses propres louanges en disant tout ce qu'il a fait de bien. Mais vraiment, je veux nous inviter à nous-mêmes, sans que quelqu'un te le dise, toi-même, avec le Saint-Esprit, Seigneur, viens sonder mon cœur, où est-ce que j'en suis? Il y a des choses que je fais que personne n'est au courant. Est-ce que je suis en train de me justifier en me disant, ben écoute, je fais déjà beaucoup de bonnes choses, donc je peux aussi faire un peu de mauvaises choses? Ou bien, c'est de dire non, je veux aller encore plus loin, je veux avancer avec toi et viens me rencontrer, viens me transformer. Et Jésus est en train de donner ces deux personnages pour nous illustrer en fait que celui qui se justifie, ben voilà, il n'y a rien qui va l'arriver. Mais celui qui sait s'abaisser, celui qui sait reconnaître sa faute, celui qui sait reconnaître son état, ben c'est celui-là que je vais pouvoir toucher, celui-là que je vais pouvoir aider. Donc vraiment, je veux nous encourager alors qu'on va parler de notre attitude face à notre propre péché. Toi-même, tu sais dans ton cœur où tu en es, vraiment, ne te justifie plus. Si tu peux retenir quelque chose de cette pensée, arrête de te justifier. Viens devant Dieu de façon honnête afin qu'il puisse te transformer.
Merci Nadine. Tu as dit deux mots-clés, hein, orgueil, humilité. Malheureusement, ça se joue souvent sur ces deux mots-là. Puis dans cette discussion, on va prendre le temps de zoomer un petit peu sur le roi Saül et le roi David. Le roi Saül, moi je trouve que c'est une des plus grandes tragédies de la Bible, il y en a d'autres, mais je trouve quand même que quand tu regardes le début de sa vie, et je pense que tu en as parlé mardi d'ailleurs, on voit un jeune homme avec un cœur tendre, qui a une faible opinion de lui-même, qui se sent pas forcément qualifié pour le mandat qu'on lui donne au moment où il est censé être appelé roi, il est en train de se cacher. C'est quelqu'un qui semble avoir vraiment le cœur parfait pour être roi. Et on voit que la royauté va lui faire tourner la tête, la gloire va lui faire tourner la tête, l'orgueil va s'installer peu à peu, alors qu'il semblait pas forcément être là, mais il devait y avoir des petites sources d'orgueil puisque ça a pris, ça a poussé. Et on le sait, Saül va commettre un péché, il va pas attendre que le prophète Samuel arrive pour faire l'offrande, etc. Et ensuite, il va continuer avec le roi Gat, qui va conserver, et il va conserver des richesses alors qu'il devait tout détruire, etc., etc. Il va désobéir. Clairement, c'est noir sur blanc, c'est simple, il a désobéi, il a péché, il a mal agi. Et quand le prophète Samuel va le reprendre, son attitude va être déterminante par rapport à la suite de sa vie et par rapport aux conséquences qu'il va subir. Alors qu'il est repris, eh bien, il va minimiser ce qu'il a fait. Il va essayer, comme tu le disais un peu, de justifier ce qu'il a fait. Oui, mais bon, tu comprends, par rapport à l'offrande, par exemple, bah, t'étais pas encore là et le peuple me mettait la pression, ils étaient en train de tous partir, on allait perdre la bataille, j'avais pas le choix. Et par rapport au roi Gat, qu'il a gardé, etc., tout ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, bah, il va essayer de justifier encore une fois, il va dire, oui, mais bon, il y avait quand même tellement de richesses, je voulais quand même récompenser mes soldats qui étaient là, et nanani, et nanana. Et il va essayer de minimiser ce qu'il a fait et finalement de démontrer que c'est pas si grave en fait et puis qu'il y avait une vraie raison pour le faire. Le prophète Samuel va se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà parlé. Et là, le problème, c'est qu'au lieu de s'humilier et de reconnaître sa faute et de lâcher prise, il va s'enfoncer de plus en plus jusqu'à même lui-même se mettre en colère contre le prophète Samuel. Il va vouloir le retenir, etc. Bref, c'est une scène qui est d'un tragique parce qu'à ce moment-là, il va perdre la royauté. Il va perdre tout ce qu'il a. Et à l'inverse, si on zoome sur David, David, on le sait, va commettre quelque chose d'au moins aussi grave. Il va quand même tuer le mari de Bathsheba avec qui il a couché, il a commis un adultère avec elle. Ensuite, il va pas le tuer de ses mains, mais bon, il le met en première ligne sur le champ de bataille, il le tue. Faut appeler ça un meurtre. Adultère, meurtre. Il s'enfonce dans son péché. Et quand le prophète Nathan vient le reprendre, on a une attitude qui est complètement différente. Mmh. David va non seulement tout de suite reconnaître ce qu'il a fait, au lieu de fermer son cœur, d'essayer de manipuler, de magouiller, il va tout de suite reconnaître ce qu'il a fait. Il va avouer sa transgression. Il va s'humilier. Mmh. Il va demander pardon. Il va vraiment assumer directement sa faute et se repentir immédiatement. Et j'aime beaucoup parce qu'il a écrit un psaume, et c'est notre verset du jour, et on va le regarder. Il a écrit un psaume juste après que le prophète Nathan soit venu le voir. C'est dans le psaume 51, au verset 3 et 5. Il va dire « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et si je continue même au verset 6, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » David va mettre en avant la bonté de Dieu, la compassion de Dieu dans ce psaume. La différence d'attitude pour moi, elle se situe au fait que David connaissait le cœur de Dieu, connaissait la miséricorde de Dieu, alors que Saül ne la connaissait pas. Ouais. Et donc Saül va essayer de se cacher, il va avoir honte, il va fuir, alors que David va assumer parce qu'il sait combien Dieu est bon. Et en lui-même, il sait qu'il a la possibilité d'être pardonné. Il a reçu une révélation qui est largement supérieure à celle de Saül. Il comprend que le pardon est accessible et disponible. Et c'est ce qui fait qu'on a deux cœurs complètement différents l'un devant l'autre.
C'est extraordinaire, Evelyne, parce que c'était dans ce psaume, moi-même, que je faisais mes recherches.
C'est l'heure de la révélation, s'il vous plaît.
Extraordinaire.
C'était dans ce psaume, hein, Frank, on est connectés.
On dit un peu psaume. Je suis dans le...
Le psaume.
Je suis dans le psaume 51, moi aussi. Mais c'est pas des blagues, c'est vraiment vrai.
Je te crois, c'est fou.
Extraordinaire.
Vraiment.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Mm. Ah, tu vois, là, et c'est justement lui qui parle encore.
Oui. Et il l'a vraiment écrit à ce moment-là, après que le prophète Nathan soit venu, qu'il ait été pris avec Bathsheba, c'est qu'on est dans le contexte.
C'est assez impressionnant. Et puis justement, ce mot brisé, shabar, ça veut dire brisé.
Tu peux continuer, elle a
C'est doux, en fait.
Non,
c'est non.
Frank, on veut la révélation complète, là. On veut pas juste les miettes.
C'est terrible. Oh là là.
Nourris-nous.
Non, l'esprit brisé. En fait, ce qui est tellement extraordinaire de David, c'est à quelque part, beaucoup à cause des psaumes, tu vois l'étendue de la compréhension qu'il avait de Dieu à cette époque-là, sans que Jésus ait marché sur la terre et qu'on ait en lui l'image du Dieu invisible. C'est ce que nous dit la parole dans Colossiens, dans Hébreux. Jésus est l'empreinte de sa personne. Donc, c'est plus facile, après d'avoir vu Jésus, de dire « Dieu, tu es tellement rempli de compassion. Tu es tellement... » À ce moment-là, il voyait des jugements de Dieu, bam, qui tombaient. Oui. Des personnes qui touchaient l'arche de l'Alliance, ils étaient morts. Tu dis « wow ». Et donc, d'avoir cette notion de Dieu sévère qui punit et tout ça, il y aurait tellement pu facilement, après avoir fait ces choses, « c'est fini pour moi, Dieu va soit me faire tomber directement, c'est tout, et là, ben je vais me rebeller, je vais vivre comme j'ai envie, je vais faire comme les autres font, je vais... » Mais il se disait « non, partout où je vais aller, de toute manière, tes yeux me verront. Seigneur, avant même que j'existe, tu me connaissais. Et j'ai fait ces choses, c'est pas ce que tu voulais, mais tu es tellement grand. Et ce que tu cherches, c'est un esprit brisé, c'est cette attitude d'humilité, de se dire, ah, j'ai chuté, j'ai raté la cible, on pourra le dire comme on voudra. Mais là, je reconnais que j'ai besoin de toi encore plus. S'il te plaît, fais-moi grâce encore une fois. Parce que, tu sais, chacun de nous, c'est pas une fois qu'on a demandé la grâce de Dieu. C'est pas une fois qu'on a demandé pardon. C'est pas parce qu'on a fait 3 péchés dans notre vie. Mais encore, on retourne vers lui et Jésus l'a exprimé tellement bien. Non, 70 fois, 7 fois. Et c'est comme ça qu'on doit pardonner, nous, vis-à-vis de notre prochain. Et Dieu, c'est encore plus grand. Et quand tu réalises la grandeur de la bonté, la grâce de Dieu, ça donne aucune licence de vivre dans le péché. Parce qu'on parle d'une émission, quelle attitude avoir après avoir péché? Paul, il dit, est-ce qu'on vivrait dans le péché parce que la grâce, elle est là et qu'elle surabonde? Loin de là. Mais quand je pêche, si ça arrive et que mes yeux s'ouvrent, Seigneur, s'il te plaît, je me prosterne devant toi et vraiment de tout mon cœur, je te demande pardon. Et ça, tu peux le dire avec tes mots, mais ton cœur est tellement endurci et rempli d'orgueil que tu vas pas prendre Dieu au piège. Mmh. Tes paroles peuvent dire pardonne-moi, mais en fait, tu sais qu'on est rendu là, t'es mieux de même pas tout de suite, j'ai envie de dire, essayer de faire l'hypocrite devant Dieu parce que c'est une chose qu'il n'aime pas. Tu peux pas. Et donc là, cet esprit brisé que la parole nous parle, et quand je continue le verset parce qu'il est, tellement beau au verset, donc là, on était au verset 17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repens par ta grâce tes bienfaits, etc. Il continue. Non, il dédaigne pas un cœur qui est comme ça, contrit, qui est humble, qui est tendre et qui reconnaît quand on a dépassé cette ligne. Et comme tu dis, David, il a fait des choses. On a tous fait des choses. Aucune raison à pointer du doigt si à ça. Non. Toi, regarde-toi toi-même premièrement. Et quand tu as cet esprit qui est là, tu sais, Saül, c'est sûr que il a commencé à un certain niveau, comme vous l'avez mentionné. Mais il y a eu les victoires, la gloire, c'est certain, la royauté. Mais les gens autour de lui, par leur acclamation de qui il est, par tout ce... À un moment donné, c'est ça qui nourrit l'orgueil. Ça nourrit. Et tu viens qu'à t'endurcir, tu dis, ben non, moi, en fait, je fais ce que je veux. Et c'est pour ça que tu viens au point où tu offres le sacrifice sans que le prophète soit là. C'est particulier comme histoire.
Vraiment.
De dire, j'attends le prophète, celui qui a parlé, qui a dit des choses de la part de l'Éternel qui étaient vraies, et je dois l'attendre. Et là, tu t'impatientes.
Ben oui. Non,
c'est juste offrir un sacrifice.
Roi.
Je vais le faire.
Je suis
et puis,
au-dessus du prophète.
J'ai une onction royale sur moi. Tu dépasses la ligne. Mm. Et ça, il y a des choses où est-ce que. Et là, le cœur après. Ah, Seigneur, garde-nous. Mais vraiment, Seigneur, je prie maintenant que tu nous gardes dans cet esprit contrit, dans ce cœur qui s'humilie devant toi. C'est aujourd'hui, c'est la prière que j'ai en commençant cette émission. Que tu gardes chacun de nos cœurs sur ce plateau et de tous ceux qui regardent et qui se mettent en accord avec cette prière. Père de gloire, s'il te plaît, garde nos cœurs. Tu dis qu'on doit veiller nous-mêmes sur notre cœur, mais on prie que par ton esprit, tu le gardes tendre, que s'il y a des racines d'orgueil, des choses qui doivent être ôtées, s'il te plaît, ne permets pas qu'on tombe comme Saül dans des pièges d'orgueil et de toutes sortes de faux raisonnements et de fausses pensées. Seigneur, dans le nom de Jésus, que ceux qui ont peut-être chuté, même aujourd'hui, dans les derniers jours, et qui sont là avec un cœur repentant devant toi, on veut te dire merci parce que tu accueilles celui qui est repentant et celui qui confesse. Et tu dis que tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et alors aujourd'hui, Seigneur, je prie que celui qui était accablé par les accusations du diable, qu'il soit relevé par ton esprit, alors que le cœur est comme celui de David, qui cherche à être humble et contrit et brisé devant toi parce qu'il reconnaît qu'il est impuissant et que sans toi, on peut rien faire. Seigneur, que ce soit toujours l'attitude de notre cœur, chacun de nous, s'il te plaît, garde-nous jusqu'à la fin dans cette attitude. Père, on te remercie.
Amen. 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 Il y a un texte ici dans la parole que, alors qu'on parle de notre attitude face à notre propre péché, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, je vais lire les versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et le verset sur lequel je voulais insister, c'est le verset 8 qui dit « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Et je le dis pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de l'attitude face à notre péché, on a parlé du cœur, etc. C'est de comprendre en fait, c'est pas envers les hommes, c'est Dieu qui veut notre sanctification. Et c'est pas, les gens peut-être ne le verront pas. Les gens peut-être, comme Saül était là en train de faire le sacrifice, ok, ils sont obligés, c'est le roi, ils sont comme soumis un petit peu à son action, etc. Et Saül n'a pas à rendre compte au peuple. Et des fois, il y a des gens, on se retrouve tellement dans une position d'autorité, il y a personne en fait qui peut nous ramener à l'ordre.
Yeah.
Mais c'est pas par rapport aux gens, c'est par rapport à nous et à Dieu. C'est pour ça que notre cœur, il est important là-dedans. Et il dit, C'est Dieu qui veut notre sanctification. Et lorsqu'on rejette ces principes d'être droit dans les affaires, il ne parle pas juste d'immoralité sexuelle, il parle même dans le quotidien, ta façon de traiter le prochain, même si voilà, tu vas dans les affaires. Est-ce que tu es honnête? Mm-hmm. Ça, c'est Dieu qui le voit. Peut-être que la personne en face, elle ne saura pas que tu l'as pris quelques milliers de dollars, que tu as ratifié certaines choses. Mais c'est envers Dieu. Est-ce que je marche droit? Et c'est, si je rejette ça, je rejette Dieu en fait, parce que c'est lui qui a mis ces standards-là. Et vraiment, ça nous ramène encore. Et comme Frank l'a parlé par rapport au cœur, je prie vraiment... Moi, c'est ma prière personnelle, mm-hmm. de vraiment toujours avoir un cœur qui est soft, qui est tendre devant Dieu. Ne pas avoir un cœur endurci. Mm-hmm. Un cœur endurci, c'est ça, c'est que tu vas avoir des pensées, des raisonnements, des façons de faire. Et des fois, les gens autour ne savent pas que tu penses comme ça, en fait. Mais toi, tu te convaincs de certaines choses. Tu as une attitude qui n'est pas bonne, en fait. Et ça, c'est tant qu'on est, notre cœur est malléable, on est réceptif. C'est ça la différence, en fait, entre ces deux rois-là. C'est que David avait un cœur qui était réceptif. Il a pu voir l'angle de vue de l'autre. Tu sais, des fois, tu parles à quelqu'un, tu l'as fait des fois, ça fait plein de fois, tu lui dis la même chose. Mais un jour, c'est comme, oh, bah, ok, cette journée-là, elle était réceptive. Elle a dit, oh ouais, c'est vrai, j'avais pas vu comme ça. Mais toutes les autres fois, c'était l'élément était le même. Donc vraiment, de nous-mêmes aussi, de rester des disciples de Jésus, de rester vraiment d'avoir ce cœur, prier pour votre cœur, que votre cœur ne s'endurcit pas. Parce qu'en fait, des fois, ce qui se passe, c'est que j'ai échappé à un truc. Et finalement, j'ai accepté comme une normalité. Et je pense même que Dieu me fait exception.
Ouais.
Je suis l'exception, je peux... Voilà,
avec moi, ça passe.
Avec moi, ça passe. Mmh. Je suis Samson. Je peux mentir et puis ça passe. Je peux voler et puis ça passe. Je peux être méchant dans mes paroles et je peux être dur dans mes paroles et puis ça passe. Et des fois, ça passe jusqu'à ce que ça casse.
Et c'est ça.
Et c'est vraiment important de dire, OK, c'est l'attitude face à votre propre péché. Pas pour pointer les autres, mais toi-même. Est-ce que j'ai encore un cœur qui est réceptif? Mmh. Est-ce que lorsque je lis la parole, je vois encore... comme un miroir. Est-ce que je vois encore le Saint-Esprit me parler ou je vois, ah, ça, il faudrait que je dise ça à Frank, ça, il faudrait que je dise ça à Evelyne, ça, il faudrait que je dise non. Est-ce que moi-même, le Saint-Esprit peut encore me parler quand j'entends un conseil, quand j'entends une prédication? Est-ce que j'entends encore la voix du Saint-Esprit qui me dit quelque chose ou bien moi? Bizarrement.
Je suis pas concernée.
Je suis pas concernée par rien du tout. Et donc vraiment, je pense que c'est pour chacun d'entre nous. C'est personnel.
Vraiment. Et puis, quand je regarde David et Saül, je regarde les conséquences qu'ont eu leurs péchés. C'est pas du tout les mêmes. Saül a tout perdu, jusqu'à perdre la tête. Il a tout perdu pour le coup là, et sa fin est tragique. Il a perdu tout, sa descendance, tout. Alors que David, Dieu lui avait fait une promesse. Dieu lui avait promis qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône. Mm-hmm. Et malgré ce qu'il a fait, à cause de son cœur, Dieu a tenu sa promesse. Mm-hmm. Jésus, le roi des rois, est venu sur le trône. Mm-hmm. C'est un des descendants de David. Mmh. Et ça m'a frappée quand j'ai réalisé ça. Ils avaient tous les deux une part d'héritage à cause de leur royauté. Saül avait sa part d'héritage. Il a tout perdu parce qu'il a eu le cœur dur. C'est pas son péché qui lui a fait tout perdre, en fait. Et c'est ça, je pense, qu'il faut comprendre aujourd'hui dans cette émission.
Tout à fait.
C'est pas ce que tu fais, c'est le cœur derrière.
Tout à fait.
Ça fait toute la différence. Oui, David a eu des conséquences. Le bébé qu'il a eu avec Bathsheba est mort. Ok, il y a eu cette conséquence et je la minimise pas, elle est grosse. Mais il a pas perdu tout son héritage. Il a pas perdu les promesses que Dieu avait faites sur sa vie. Parce que les paroles qui avaient été dites sur sa vie, on peut s'accomplir quand même. Il a pas perdu la royauté. Il a continué. Et même quand son fils Absalom a voulu se rebeller contre lui, Dieu est encore intervenu pour le laisser sur le trône. Donc, la main de Dieu est restée sur David. Mm-hmm. Et des fois, on s'arrête à ce qu'on fait de mauvais au lieu de regarder le cœur derrière. Yeah. Et je crois vraiment, c'est un message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Quel cœur est-ce que vous avez? Des fautes, tout le monde peut en faire. Mm-hmm. On peut tous commettre une erreur. On peut tous pécher à un moment donné. Mais c'est pas ça qui va définir ta destinée. C'est pas ça qui va définir celui que tu vas être devant Dieu. C'est l'attitude que tu vas avoir. Mm-hmm. Et vraiment, moi, je veux vous encourager à méditer sur ces histoires. Aller relire l'histoire de Saül. Aller observer comment, à quel moment, en fait, quand on lit, on peut voir à un moment donné son cœur qui commence à basculer et jusqu'à ce que ça craque complètement. Et on peut voir le cœur de David qui est éprouvé. Encore et encore, et qui reste tendre malgré tout. Les gens viennent à David et lui disent « Mais rebelle-toi contre Saül, ou rebelle-toi contre Absalom, fais ci, fais ça, défends-toi, fais ci, fais ça. » David choisit encore et encore et encore de garder son cœur. Et c'est extraordinaire, ça vaut tellement la peine de creuser ça et de se dire « Quel est mon cœur, moi ?» De se placer devant Dieu et de se dire « Seigneur, quand je suis prise la main dans le sac, quelle est mon attitude, quel est mon cœur ?» Si demain je tombe, comment est-ce que je vais réagir? À côté de quoi est-ce que je vais passer? Parce que eux, c'était un héritage terrestre dont on parle. Mais nous, il s'agit de la vie éternelle. Est-ce qu'on va endurcir notre cœur au point de plus être capable, comme tu le dis, d'entendre la voix du Saint-Esprit qui nous reprend? Est-ce qu'on va endurcir notre cœur au point de plus être repris par les hommes, de plus être capable de pouvoir nous corriger, de pouvoir rectifier le tir, de plus être enseignable? Jusqu'à quel point on va endurcir notre cœur? Je crois que si on l'endurcit un peu, on va l'endurcir beaucoup sur le long terme. C'est le début de la fin. On doit garder ce cœur tendre, comme tu dis, tout le temps et encore.
À un moment donné, le cœur devient tellement dur que tu bascules d'un côté, ou à moins que Dieu vraiment surnaturellement t'ouvre les yeux de manière naturelle, t'as basculé.
Ouais.
Et ça devient très, très, très délicat. Là, je veux parler à certains hommes, vous êtes là, et vous avez cette peur même de demander pardon, parce que vous vous dites... Moi, je suis un gars, je suis un homme, je suis comme ça. Et en fait, il y a une part d'orgueil qui s'est emparée de toi. Et tu te dis, ben moi, je suis comme ça. Dans ma culture ou chez moi, c'est comme ça. Je suis un homme, je vais pas m'humilier, demander pardon à telle personne, à ma femme, à mon ami assis. Tout le monde le sait. Mais est-ce que tu penses une seconde que je vais aller demander pardon publiquement parce que j'ai... S'il te plaît, que cet orgueil... Sois balayé de ta vie, s'il te plaît. David, un homme, un soldat, un général, qui dans les films les plus fous de guerre que tu pourrais voir aujourd'hui, un homme, un vrai, mais qui pleurait devant le Seigneur. Parce que malgré qu'il était ce qu'il était, un leader, un homme plus haute position à Israël à cette époque-là, tout. Mais qu'il avait ce cœur tendre encore aujourd'hui. Je prie que l'orgueil vraiment s'éloigne de nos vies. Et s'il te plaît, ne te laisse pas avoir par cette fausse pensée, ce mensonge, que parce que je suis qui je suis, mon nom, mon héritage, ma stature, que tu es trop élevé pour pouvoir demander pardon, premièrement à ceux autour de toi, mais surtout à Dieu.
Oui.
Ah Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Amen. À la fin de cette émission, touche les cœurs endurcis, s'il te plaît, par ton esprit. Merci Seigneur.
Amen, amen. Une émission super importante qui, je l'espère, va vraiment porter du fruit dans vos vies, dans nos vies, j'ai envie de dire, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi est fait demain, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on va vivre, quelle attitude on va avoir, mais on a le choix aujourd'hui de décider de garder un cœur tendre devant Dieu, un cœur enseignable, un cœur qui est capable d'être repris et capable de se repentir. Et c'est vraiment notre prière pour vous. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Chabar.
Chabar, c'est le mot de la fin. Allez, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.